Tout naturellement, professeur Binashka tient sa chaise chaude aux archives. Sa quête, comprendre les raisons profondes de l'éclosion rapide de cette ville minière.
Professeur Cassady de Lida, et si le bonheur avait aussi fait boum?
Au début des années 1900, la majeure partie des activités minières au Canada se passe surtout en Ontario, dans le nord de l'Ontario. Maintenant, il y a très peu d'activités minières du côté du Québec à ce moment-là.
Pierre Barrette.
Un prospecteur de l'Ontario, un dénommé Edmund Horn, lui, il a l'idée d'aller explorer au-delà de la frontière ontarienne. Évidemment, il y a énormément de gisements du côté ontarien. Ces gisements-là sont situés de chaque côté d'une faille minière qu'on connaîtra plus tard sous le nom de la faille de Cadillac. Lui, il est dans l'idée que c'est pas parce qu'il y a une frontière provinciale que la faille arrête nécessairement la frontière.
L'Abitibi a d'abord été une sorte de possession ontarienne hors frontière, prolongement naturel d'un travail de prospection minière qui arrivait par l'ouest et qui ira de Sudbury à Chibougamau de 1850 à 1950.
Edmund Horn décide de partir en canot en l'an 1911. Lui, il focus de se rendre autour du lac Osisko. On parle d'un périple de plus de 200 km, un territoire très sauvage, difficile d'accès. Alors, ça prend beaucoup d'équipement puis beaucoup de vivres.
Quand Ed Horn est arrivé au lac Rouen après minuit ici, il s'est dirigé vers un ruisseau, sans trop savoir où il allait.
Curé Pelletier.
Il n'y avait pas beaucoup d'eau, il traînait son canot la moitié du temps. Finalement, ça lui a permis d'atteindre le lac Osisko ici. Et puis là, du côté où il amène aujourd'hui, le vent avait renversé à peu près 2 heures. D'arbres, laissant le roc à nu. Alors, il a gratté ça, fouillé ça, puis emprunté des échantillons, c'était le calcopérite. Il a fait analyser ça, bien, ils ont dit, mon vieux, t'as de la chance. Quand Ed Horn disait, il y en a pas mal, tu as dit qu'il y en avait beaucoup.
Bon, à ce niveau-là, Edmund Horn n'a pas rien découvert encore. Ce qu'il a vu, c'est quelque chose de favorable. Il ne retournera pas sur le territoire avant 1914, le temps de se ramasser des fonds pour faire une autre expédition. C'est seulement qu'en 1917 qu'il va vraiment déceler la présence d'or dans une formation de rhyolite, là. Alors, c'est à partir de ce moment-là, encouragé de ses résultats, qu'il va former un syndicat financier qui porte le nom qu'on donnait au lac Osisko à l'époque, donc le lac Trémois. Donc, le syndicat financier, le Trémois Lake Prospecting Syndicate, ça a permis à Horn d'amasser les sommes nécessaires pour faire plusieurs expéditions dans le canton rouen entre 1920 et 1922. Et c'est là que Edmund Horn va trouver des teneurs intéressantes allant jusqu'à 3,6 onces la tonne d'or. Au même moment, un ingénieur minier du nom de Humphrey Chadburn, un Américain de New York, décide d'investir son argent dans les propriétés minières au Canada dans l'optique d'en développer une mine. Alors, il entend parler de la propriété et les approches pour en faire l'acquisition. Les deux parties réussissent à s'entendre et c'est comme ça que M. Chadburn, avec son allié, M. Sam Thompson, vont former un autre syndicat financier du nom de Chadburn Thompson Syndicate pour faire l'acquisition de cette propriété-là. Ils vont aussi faire l'acquisition d'une autre propriété qui a été jalonnée pas très loin de celle de la Horn, qu'on appelle la propriété Powell. Ils vont aussi jalonner un autre territoire intéressant qu'on appellera la propriété Chadburn. L'équipe de la Noranda envoie des équipements en utilisant un vieux chemin qui est seulement carrossable l'hiver pour accéder au canton Rouen. Il y a une certaine quantité de forage qui était faite sur les trois propriétés. Jusqu'à présent, la propriété Horn n'a pas démontré de résultats très, très intéressants. Alors, tous les efforts sont concentrés autour de la propriété Chadburn. En 1923, M. Sam Thompson va faire une première visite sur les lieux et à son arrivée, va prendre une décision historique. Thompson ordonne à l'équipe sur place de déménager les foreuses sur la propriété Horn. Une foreuse, ça implique aussi qu'il faut avoir d'autres équipements comme une bouilloire qui est alimentée au bois. Donc, tout le monde questionne la décision de M. Thompson de déplacer tous ces équipements-là, mais la rationnelle de M. Thompson est que puisque la Noranda paye des sommes importantes pour garder une option d'achat sur la propriété Horn, alors qu'elle détient la totalité des propriétés de Chadburn et Powell, qu'il serait avantageux d'aller forer tout de suite sur la propriété Horn. Le flair de M. Thompson s'est avéré exact, puisque, contre toute attente, au deuxième trou de forage, on a non seulement trouvé de l'or, mais du cuivre. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que la mine Horn commence à prendre forme.
Rouen et ses alentours C'est d'abord le résultat d'une ruée minière autour de la faille de Cadillac, pendant québécois d'une faille ontarienne. Les voies et les systèmes de communication de la région s'organiseront d'abord en fonction de l'Ontario.
Donc, à partir de ce moment-là, ça crée beaucoup d'effervescence. Dans le canton Rouyn, il y avait des douzaines de compagnies qui prenaient naissance à tous les jours, des compagnies tout simplement bidons qui faisaient du pouce en mentionnant simplement que leur claim minier était situé non loin de la propriété Rouyn. Et ça donne place à une véritable ruée vers l'or, un véritable Klondike du Nord-Ouest québécois.
On est arrivé ici, nous autres, la première année de tout, là. Il n'y avait pas de bâtisse. On restait dans les temps, à ce temps-là.
Vital Goulet.
Il y avait le nombre de gars. Il y avait les prospecteurs, là. Il y avait du Ron, là. Le vieux Renault, que j'ai connu, moi. Les prospecteurs. Ils cherchaient rien que ça, l'or et la coupe. Hein. Donc, il devait y avoir un 100, 150 personnes, à ce temps-là. La première place qui s'est défrichée, c'est du million, là, la pointe. Après ça, il défrichait la place de mine. Là, hein. Ça a été défriché, ça. Puis ça a été coupé en bois de mine.
Et la nouvelle, ça s'étend.
Olivier Carrier.
Les gens du Témiscamingue flairent la fortune. On va faire une passe, là. On va faire un mouton. L'argent coule comme de l'eau.
On ouvrait des hôtels, on ouvrait des steam baths, on ouvrait des restaurants.
Sébastien Tessier.
On se bâtissait une maison en bois rond, puis on transformait ça en commerce avec une petite chambre en arrière pour dormir. Rouyn, les gens venaient squatter. Les premières années, de 1923 à 1925, c'était une ville sans loi. Il n'y avait pas d'autorité, pas de police, pas de curé.
Ils nous avertissaient ça aussi de ne pas sortir le soir seul. C'était dangereux. Il y avait toutes sortes de notions, là. Comment ça va? Pas mal d'hommes, mais c'est un.
Hein? Quand on avait couché à la pension Gamble, là.
Madame Carrière.
Il y avait l'hôtel au Cisco qui appelait. Les hommes, ça, s'étaient battus toute la nuit. Oh, chèvre. J'ai dit, il n'y a pas de danger que je savais.
Donc, les gens venaient ici pour jouer. Il y avait beaucoup de gambling. Les gens venaient jouer aux cartes ou venaient parier sur peu importe ce qu'ils pouvaient parier. Il y avait un red light à Rouyn avec beaucoup de prostitution.
C'était pas aussi les chats pour les dingues. C'est des filles qui venaient faire la vie ici et qui vendaient la bière, c'est tout.
Il y avait des bootleggers. Quand on parle de Boomtown, c'était vraiment ça, là. Puis c'était le Far West.